EMC IPV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Dieu t'a appelé, il va t'équiper ». Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique « Flashback » qui sera animée aujourd'hui par Frank. Il nous parlera du ministère d'Oral Roberts. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne.
Vous avez aimé ma prononciation de Oral Roberts?
Oui, c'était parfait. Bravo, bravo.
Je t'ai entendu, peux-tu refaire?
Oral Roberts.
C'est ça.
Un peu que robots, c'est des Robert. Robots en fait.
Robots. Non, mais pour nos amis français, oui. Donc quasiment tout le monde, bah, ils ont compris de qui je voulais parler.
Ah, c'est ça.
Donc, sinon, on n'aurait pas compris. Parce que moi, la première fois, quand tu m'as dit « Oral Roberts », je t'ai dit « Pardon, c'est qui ?»
En effet.
En effet. Donc, Frank, c'est toi qui feras la rubrique « Flashback oui. ». Aujourd'hui, on a une petite pensée pour Anne, hein, quand même.
Ouais.
Elle nous manque.
Ouais.
Anne sera avec nous dès la semaine prochaine. Donc, ouais. On s'accroche. On doit supporter Frank encore en rubrique « Flashback ».
Supportez-moi.
Non, tu fais ça très, très bien. Tu es un excellent remplaçant, Frank.
Merci.
Merci à toi. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'équipement. Et justement, Frank, Dieu t'a parfaitement équipé pour remplacer Anne dans la rubrique Flashback.
Alléluia.
On voit que Dieu nous équipe, peu importe les circonstances dans lesquelles il nous emmène, en fonction de notre appel, Dieu nous équipe. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est un peu prétentieux.
C'est un peu prétentieux. C'est exactement ça. Non pas que ce soit prétentieux, mais c'est bien ça le titre. C'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et on peut lire directement dans Luc au chapitre 4 et verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, vous avez bien pu noter avec moi qu'il y a beaucoup de pour. Il y a un parce que et il y a un pour. Et on va en parler un petit peu plus tard. Et on pouvait lire, il y a quelques jours, sur les bannières de EMCI, on pouvait lire le titre d'un message du pasteur Peter Schmidt. « Le Saint-Esprit nous appelle au service ». Et dans le verset qu'on a lu juste avant, on peut voir que le Saint-Esprit a consacré par onction ou a oint le Seigneur Jésus pour faire quelque chose. Mmh. Donc, le Saint-Esprit nous appelle bien pour ou à faire quelque chose. Et on lit au verset 21 du même passage. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et dans notre ministère, on doit avoir, si on a discerné l'appel que Dieu a pour notre vie, si on a discerné qu'on a reçu cette onction du Saint-Esprit, on doit avoir ce fameux aujourd'hui. Il doit y avoir un point de départ. Alors aujourd'hui, cette pensée du jour, c'est vraiment pour vous encourager à croire que aujourd'hui quelque chose va changer dans votre vie. Et je me rappelle que à un moment dans ma vie où j'ai accepté le Seigneur, j'ai délaissé complètement la musique qui était ma passion, qui était aussi mon métier. J'ai tout délaissé, j'ai laissé ça sur l'autel parce que je voulais obéir à Dieu en délaissant toutes les choses que j'aimais. Mmh. Donc, j'ai tout abandonné et au bout d'un moment, le Saint-Esprit a parlé à l'apôtre Alain Patrick Tsengue et lui a dit qu'il fallait que je commence à diriger les chants dans le groupe de jeunesse. Et j'ai commencé à diriger les chants. Je l'ai fait aussi dans mon église locale avec mon pasteur parce qu'il m'a demandé aussi de le faire. Et à un moment précis, j'ai su que l'onction était venue sur moi. C'était quelque chose de surnaturel. C'était un équipement divin qui s'était posé dans ma vie, qui était là, et c'est pas orgueilleux, comme on pouvait dire tout à l'heure, ou prétentieux, puisque quoi qu'il en soit, je l'ai pas créé. C'est venu sur ma vie. Donc, j'y suis absolument pour rien. Mais j'ai vu que cette onction me donnait une assurance surnaturelle, une assurance extraordinaire pour accomplir le ministère auquel j'étais appelé. Mmh. Et cette assurance, personne ne pouvait me l'enlever, personne ne pouvait me dire non, tu n'es pas fait pour ça, parce que même si j'avais l'appel, même si j'avais commencé à exercer, il me fallait cette onction du Saint-Esprit sur ma vie pour commencer à exercer. Donc aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux personnes qui ont reçu cette onction pour accomplir quelque chose. Et il doit y avoir ce jour où on sait que Dieu nous a oint. Dieu nous a appelés, mais Dieu nous a oint pour commencer à œuvrer. Et aujourd'hui, vous êtes dans cet état et vous savez pertinemment que Dieu vous a appelé. Vous savez que vous avez reçu l'onction, mais vous devez commencer à poser des actes de foi par rapport à votre ministère. Vous devez commencer à passer du temps avec Dieu et lui demander dans quel champ d'action vous devez opérer. Mais si vous attendez et vous attendez et vous attendez, vous n'êtes pas en train, vous êtes en train de désobéir en quelque sorte. Et je vous demanderais d'imaginer ça. Imaginez que vous êtes dans une entreprise et que votre patron vous demande de devenir le directeur du marketing. C'est un poste particulier, mais votre patron vous demande d'être directeur du marketing, il doit vous équiper, il doit vous donner les finances nécessaires puisque c'est le marketing, il doit vous donner les outils nécessaires et vous êtes censé être la personne qui va apporter une dynamique économique, une dynamique financière à l'entreprise, mais au lieu de ça, vous restez en étant un exécutant. Alors être un exécutant, c'est très bien, mais il y a des missions différentes et il y a des saisons différentes. Vous avez reçu l'onction et Dieu vous appelle à être un évangéliste et en tant qu'évangéliste, vous allez devoir passer du temps avec Dieu et lui demander « Seigneur, comment je dois faire pour opérer dans ce ministère pour lequel tu m'as appelé et pour lequel tu m'as oint ?» Parce que le Saint-Esprit m'a appelé au service. Et je pense au frère Cospiel, par exemple, qui a eu cet appel d'évangéliste. Et même si l'évangéliste est une personne qui prêche, qui va prêcher l'évangile à l'église, dans des églises, il va y avoir des rassemblements, Dieu lui a parlé pour prendre son mégaphone et aller dans les villes et puis commencer à annoncer l'évangile. Et il y a un modèle particulier pour toi qui me regarde parce que Dieu t'a appelé au service et il t'a oint pour ça. Et il veut te montrer ton modèle spécifique dans lequel tu vas pouvoir agir parce que tu es appelé au ministère. Mais tu dois poser cet acte de foi, cet acte concret. Tu t'intéresses à la mission, tu veux partir en mission, commence à regarder dans ton église les champs d'action missionnaires qu'il y a. S'il n'y en a pas dans ton église, tu peux aller voir sur EMCI, je suis certain que tu vas trouver des outils particuliers concernant ton appel. L'onction du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu nous mettait sur les starting blocks, je sais pas comment on dit autrement, mais tout le monde comprend ça, pour démarrer une course. C'est pas nous qui nous mettons sur ces starting blocks, c'est le Saint-Esprit qui nous met là, qui nous dit, ça y est, tu as été appelé, tu as été équipé, maintenant tu es ici pour démarrer ta course et tu vas devoir commencer à courir. Donc commence à œuvrer et tout ce que ta main trouve à faire, selon ton ministère, selon l'appel qu'il y a sur ta vie, fais-le. Amen.
Amen.
Tu dis amen comme les Oral Roberts.
Amen.
Merci Gwen, merci pour cette pensée. Et Dieu nous équipe. Amen, amen. C'est vraiment merveilleux de savoir que quand on reçoit un appel, Dieu nous équipe. Et j'ai aimé ton exemple du directeur du marketing. Je crois qu'un chef d'entreprise serait vraiment ridicule de dire, voilà, tu vas être directeur du marketing, mais je te donne ni le budget, ni le matériel, ni le personnel. Bon, bah, tu te débrouilles. C'est certain que les fruits vont être ridicules. Mmh. Et nous, on a le chef d'entreprise suprême, on a le chef de l'univers et qui est notre père en plus. En que plus. Demander de plus? Quand il nous appelle, quand il nous confie une mission, il nous équipe. Mmh. Et comment savoir si on a été équipé? Ben, c'est pas en restant assis puis en attendant que tout à coup on voit quelque chose descendre du ciel, une armure ou un équipement spécial, c'est en agissant. Mmh. Et dès le moment où on commence à œuvrer dans notre appel, tout à coup, on découvre des choses qui ont été mises en nous qu'on ignorait complètement. Mmh. Et puis on se dit, oh wow, en fait Dieu m'avait équipé, j'étais équipé mais je le savais pas. Et c'est vraiment en démarrant quelque chose. Et c'est là cette différence, les gens vont attendre qu'il se passe quelque chose, de sentir tout à coup l'onction venir sur eux, d'avoir une parole, d'avoir un rêve, un songe, une vision, quelque chose. Mais il n'y a pas besoin de ça. C'est par la foi qu'on agit, parce que Dieu est fidèle, il l'a promis, il va nous équiper et on va le regarder, parce que vous avez des doutes à la maison, je le sens. Donc le verset du jour aujourd'hui, 2 Timothée 3:17. Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Amen.
Amen, amen, amen.
C'est drôle, ton illustration du directeur du marketing, parce que quand j'ai commencé à l'antenne de télévision en Alberta, c'était justement le poste qu'on m'offrait au départ. Et puis moi, je connaissais absolument rien au marketing. Mm-hmm. Mais c'est ça, et le premier projet que j'avais, bien, en fait, il y a un des vice-présidents de l'antenne de télévision est arrivé dans mon bureau, il m'a remis une chemise et puis il a dit, tu as un budget de 100 000 $, vas-y, avance. Et puis j'étais comme, OK, mais c'était mon premier projet. Wow. Mais là-dedans, j'ai grandi. Et Dieu nous équipe et Dieu nous surprend, en fait. Mm-hmm. Parce que finalement, il nous donne une sagesse comme on cherche sa face, hein, c'est mm-hmm. certain. On dit, Seigneur, OK, là, j'ai besoin de ton aide parce que je connais rien à tout ça, mais Dieu est capable de nous équiper. Mais on doit croire qu'il est là.
Exactement.
Ouais. Mais un élément clé que Gwen a dit, c'est l'obéissance. En fait, je crois que Dieu, dans notre cheminement, Dieu avait déjà des projets pour nous. Ouais. Et on serait surpris une fois qu'on arrive, qu'on est obéissant à se rendre compte que tout ce qu'on avait fait auparavant, c'était des petites pierres, en fait, ouais. qui s'accumulaient. Et quand on va se mettre à faire le travail dans le champ dans lequel on doit faire, on se rend compte que, ah, mais ce que j'ai appris ou l'expérience que j'ai eue précédemment, voilà à quoi elle sert. Mm-hmm. Et ce que j'aime, il y a un texte dans la Bible qui dit que Jésus a envoyé les disciples deux par deux mm-hmm. et ils sont partis. Et quand ils sont revenus, mm-hmm. ils étaient tout contents en disant, Seigneur, regarde, les malades sont guéris, il y a eu des délivrances et tout ça. Ils ont dit au Seigneur tout ce qu'ils avaient pu accomplir, mais parce qu'ils sont d'abord partis. Oui. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, tu sais, nous, on n'était que des pêcheurs de poissons. Est-ce que tu es sûr qu'on est prêt à y aller? Non, ils ont obéi. Et quand ils sont partis, ils sont revenus avec du fruit. Et je crois que quand on travaille dans ce que Dieu nous appelle à faire, les fruits que nous allons récolter, le résultat que nous allons avoir, c'est vraiment un témoignage que vraiment qu'on a obéi, que Dieu est derrière.
Exactement. Fait. Moi, je me souviens quand j'ai repris le travail après la naissance de Sophia, donc mon deuxième enfant, on avait un besoin à enseigne-moi au niveau relation donateur. J'y connais rien à tout ça. Et puis, ça implique d'avoir beaucoup de contacts avec les gens, les donateurs, et particulièrement souvent de les conseiller, de les aider. Il y a des besoins particuliers. Les gens nous écrivent forcément dès que tu as des relations avec les gens. Mais il y avait donc un besoin spirituel. Et puis, moi, j'avais juste fait l'école biblique, l'IBM à l'époque, mais j'avais pas beaucoup de pratique. Et je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur? Et combien de fois c'est arrivé où je recevais un email et je me disais, mais qu'est-ce que je vais répondre? Et juste, je commençais, cher frère, un tel, et tout. J'écrivais sans m'arrêter. Et à la fin, je relisais ce que j'avais écrit. J'étais, waouh, c'est tellement puissant. Et c'était vraiment le Saint-Esprit. Et c'est arrivé, mais plein de fois. Mmh. Et j'ai vraiment vu comment Dieu m'avait équipé pour ce poste, pour cette saison. Et pour Bonjour chez vous, j'ai vécu la même chose. J'aurais jamais cru que j'étais capable d'animer une émission. Je voyais Annabelle animer Parole de femme quand j'étais chroniqueuse dans Parole de femme et je me disais jamais j'arriverais à faire ce qu'elle fait, c'est fou. Et on commence, on sait pas ce que Dieu a mis en nous et il y a un équipement qui est surnaturel, qui n'a rien d'humain, qui ne dépend pas de nos propres capacités, qui sort et puis on se dit juste waouh, merci Seigneur, tu m'avais préparé, tu m'avais équipé mais je le savais juste pas en fait.
Ouais.
Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est si on voit le Seigneur Jésus qui a été oint et qui dit qu'il a été oint pour faire quelque chose, on a reçu cette onction, il faut qu'il se passe quelque chose.
Oui.
C'est pas pour qu'on dorme et puis qu'on continue à juste garder ces choses-là pour nous. C'est ça qui est justement le problème. C'est si tu commences à garder les choses que Dieu a mis en toi, il t'a équipé, il a investi. Mm-hmm. Donc tu peux pas laisser ton talent, tu peux pas le mettre en terre.
C'est la parabole des talents, c'est ce que
ce qu'il veut, c'est un investissement et que ça porte du fruit.
Amen.
Donc de dire que je le garde et se dire ouais non mais si je l'expose, c'est orgueilleux. Ses prétentions. Non, ce qui est vraiment le problème, qui est un péché, c'est de garder ce que Dieu nous a donné pour faire quelque chose. Mmh. Et Jésus l'a parlé, il a dit aujourd'hui ça s'accomplit et il a commencé à opérer dedans. Oui. Donc dans l'intimité, il y a des choses qui se dessinent avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, on cherche sa présence, on cherche ce que Dieu veut faire. Et Dieu nous montre, comme à David, il nous montre la construction du temple. Il va nous montrer les plans, les dessins, comme un architecte par rapport à ce qu'on doit faire. Et après, dans l'action, il doit se passer quelque chose. Mmh. On doit commencer à faire ce qu'on a vu là dans l'intimité.
Exactement.
Et pas juste regarder Oral Roberts qui est super, mais aujourd'hui Frank qui aime beaucoup Oral Roberts, aujourd'hui Frank anime les héros de la foi, mais il a aussi passé du temps dans la présence de Dieu et il a des projets glorieux qui vont venir très très bientôt, hein, c'est ça, très bientôt.
Amen.
Non non, mais je le dis parce que je le sais, il m'en a parlé, mais ces choses-là, c'est parce qu'il doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Mm-hmm. Ce que disait Paul à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, parce qu'à un moment, il faut que tu fasses ce à quoi tu as été appelé. Oui, exactement. Je suis un peu passionné.
C'est clair.
Ça, c'est vrai. Amen.
Une des choses, je crois, importantes, c'est que Dieu recherche des cœurs dépendants, tout simplement. Si nous sommes dépendants sur le Seigneur, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me souviens d'une histoire quand Mathieu Desbois, on devait aller consoler une dame qui venait tout juste de perdre son mari. Elle était enceinte et puis elle avait une petite fille, je crois. Oh, et puis nous, on arrivait là en tant que les pasteurs qui devaient la consoler. C'était une tragédie. Je me souviens, j'étais dans ma voiture puis je disais à Mathilde, mais je me souviens pas d'avoir suivi un cours à l'Institut biblique pour cette situation, c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous. Et puis, on a sorti de notre voiture, nous sommes rentrés à la maison, et puis l'Esprit de Dieu était là, l'onction de Dieu est venue sur nous, la femme, la dame a été totalement consolée, et puis là, la parenté aussi est arrivée, et puis on a pu parler du Seigneur à toute la famille, et puis là, vraiment, j'ai ressenti la présence de Dieu dans ce moment-là qui a quand même marqué ma vie, et puis là, elle se posait des questions sur le ciel et je venais de vivre ma visitation en 2004. Donc là, j'ai commencé à parler du ciel, comment c'était glorieux et puis tout le monde était « on veut y aller ». Mais j'ai vu « wow, le Saint-Esprit nous équipe ». Mais avant de sortir de ma voiture, j'étais comme un peu dans la crainte.
C'est ça.
Mais Dieu nous équipe toujours.
Ouais. Je veux juste faire la nuance parce que c'est important tout ce qui a été dit parce qu'il y a des gens à la maison, je pense, qui vont se dire OK, j'ai compris tout ça. Mais il faut saisir le revêtement de puissance du baptême du Saint-Esprit. Mm. Ça, c'est ouvert à tous.
Oui. Mm-hmm.
C'est ouvert à tous d'aller imposer les mains sur les malades, qu'ils soient guéris. T'as pas besoin. Oui, il y a des appels au ministère. Il y a des dons de l'Esprit qui peuvent se manifester. Mais tout simplement, aller œuvrer au nom du Seigneur, ça, c'est ouvert à tous les croyants qui sont nés de nouveau. Ça, je veux faire vraiment parce que l'onction du Seigneur, le Saint-Esprit est sur chacun de nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre qu'on a à faire sur terre. Mais après ça, comme que ça a été dit ici, il y a des choses spécifiques pour chacune de nos vies. Puis c'est comme on en a parlé, l'onction, c'est un équipement surnaturel pour accomplir quelque chose de précis que Dieu veut que nous, on accomplisse.
Mm.
Puis ça, il y a la différence. C'est que des personnes, des fois, ils peuvent dire, mais j'irai pas prier pour un malade, j'ai pas l'onction pour faire ça. Non, c'est pas vrai. Tu l'as. Mm. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux faire la nuance parce que c'est important. Sinon, les gens, ils restent inactifs, comme que tu as dit, à certains sujets. Puis Dieu, il veut pas ça non plus. Il veut vraiment qu'on soit actif dans ce qu'on a déjà reçu. Puis, il y a autre chose après aussi pour chacune de nos vies spécifiquement.
Exactement. Merci à tous pour cette conversation qui était super édifiante. Et on va continuer avec un domaine très édifiant. On va passer à la rubrique Flashback. Frank, aujourd'hui, tu nous parles d'un homme, Oral Roberts, dont tu présentes les prédications, certaines prédications dans l'émission Héros de la foi. Mm-hmm. Donc, tu as choisi, entre guillemets, quoi, mais ce ministère que tu voulais nous présenter aujourd'hui, parce que, bon, non seulement tu en parles dans Héros de la foi, en tout cas, tu le présentes dans Héros de la foi, mais aussi parce que c'est un ministère que toi-même, personnellement, tu apprécies quand même beaucoup.
Oui, absolument, oui. Puis, en effet, un héros de la foi, on fait, pour l'instant, on fait 4 ministères. Si les gens ne l'ont pas écouté, allez écouter Héros de la foi. C'est très puissant. On a reçu des témoignages de guérison, justement, plusieurs personnes qui étaient guéries au travers de l'émission.
Mm-hmm.
Puis, on va parler de Oral Roberts. C'est là, je vous encourage à le pratiquer. Oral Roberts.
Tout le monde à la maison.
Oral Roberts. Amen. On va l'appeler le frère Roberts pour l'émission.
Merci.
Ça va être plus facile.
Sérieux, ils auraient pu l'appeler autrement. C'est quand même deux mots qui s'appondent pas super bien.
Oral Roberts, ouais, c'est faut être anglais quand même.
Quand même.
Mais bon, en tout cas, on va parler de lui aujourd'hui parce que il est un, je veux dire, lui, c'est un héros de la foi, évidemment, que Dieu a utilisé. Il est le père de tellement d'hommes de Dieu sur cette terre. Il a fait une œuvre qui est extraordinairement grande.
Oui.
Grande, mais aujourd'hui, je veux parler surtout de ses commencements, de son enfance, puis jusqu'à vraiment ce qu'il rentre dans le ministère. Puis peut-être une prochaine fois, si je remplace Anne encore, je pourrais refaire plus la deuxième partie de sa vie, si on veut. Mais lui, bon, donc il est né très pauvre. Il était dans une famille qui était pauvre, mais il y avait un père qui était prédicateur et une mère qui aimait beaucoup le Seigneur. Fait que lui, la particularité, et je vais encourager les personnes même justement à aller écouter l'émission Le quatrième homme de Héros de la foi. Parce que c'est une émission qui est tellement puissante. Le message qu'il a prêché, c'était extraordinaire. Je l'avais dit dans l'intro de l'émission aussi, il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder ces personnes-là et puis se dire, c'est facile de prêcher la foi, t'es jamais malade, c'est facile de prêcher la prospérité, tu manques de rien, blablabla.
Mm-hmm.
Mais il a vraiment passé par l'épreuve. Parce que, justement, à l'âge de 17 ans, il a été atteint d'une maladie très sérieuse, puis on va le voir.
Okay.
Mais bon, donc il était un enfant, il avait deux parents qui aimaient vraiment le Seigneur, mais il était, comme on dit, bègue, il avait un bégaiement très sévère. Il n'arrivait pas à parler bien du tout. Il y avait un de ses oncles, même justement, il l'écrasait constamment. Mais tu feras rien dans la vie, tu feras rien de bon, tu sais pas parler, tout ça. Puis il se faisait vraiment écraser. Il y avait une mentalité qui se forgeait en lui. Puis son père, quand il voyait ça, évidemment, c'était un homme de foi. Mm-hmm. Il avait pas tout saisi, tout sur la guérison et toutes ces choses-là, mais il aimait vraiment Dieu et sa mère aussi. Puis son père, quand il entendait des choses comme ça, que des gens parlaient négativement, il parlait vraiment la vie dans sa vie. Mm-hmm. Il disait, non, Oral, tu vas servir Dieu.
Amen.
Et puis là, c'est comme il renversait les mauvaises choses par la parole de Dieu. Mm-hmm. Il prophétisait sur sa vie. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vu qu'il bégayait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'amis, il était rejeté facilement des gens à son école et tout ça. Et en grandissant, il est venu qu'il était grand, en fait. Il était 6 pieds, comme on dit ici. Je sais pas comment c'est en mètres en France.
1m80.
1m80 à peu près.
Plus, OK.
Et puis, il était bon au baseball et au basketball. Donc, il est devenu très bon dans ces deux sports-là et c'est devenu la passion de sa vie, en fait. Puis, tout ce qui était négatif autour de lui, il a voulu, comme je peux le dire, il s'est concentré, il a tout mis ça dans les sports. Tout ce qu'il y avait en lui, peut-être, qu'il pouvait faire, qu'il était rejeté, mais il était bon dans les sports, donc il faisait des sports à fond. Mm-hmm. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? En 1935, son professeur a vu qu'il était très bon au basketball, justement. Il lui a dit, Oral, est-ce que tu aimerais ça venir à telle école? C'était à une 50 000 miles de où est-ce que ses parents il habitait. À l'époque, c'était des petits villages et tout ça aux États-Unis. Dans les années 30, aux États-Unis, il y avait eu la dépression qui avait été là. Et puis là, ses parents commençaient à s'en sortir un peu plus. Puis, il s'est fait offrir ça d'aller à cette école-là pour pouvoir jouer au basketball. Donc, il a dit, ouais, c'est pour lui, il voyait ça comme son billet de départ de cette petite maison, de la pauvreté, de tout ça, et de pouvoir faire sa vie dans la petite école là-bas. Et puis, donc, il a accepté, il est allé. Il est devenu le président de sa classe, comme on dit ici. Mm-hmm. Je sais pas si ça se dit en France, mais ça veut dire qu'il était vraiment aimé. Mm-hmm. Il commençait à bien performer, tout ça. Il commençait à être aimé de plus en plus. Puis, il était l'éditeur du journal de son école où est-ce qu'il allait aussi. Donc, il commençait vraiment
à être
reconnu de plus en plus. Et puis, un soir, pendant un tournoi régional de basketball, il était sur le terrain, il jouait. Et puis là, oui, on peut le voir là, justement, on peut afficher l'image du frère Roberts. Mm-hmm. Ça, c'est plus tard dans sa vie, évidemment. Il jouait au basketball et puis là, il s'est effondré tout simplement sur le terrain de basketball. Et là, il s'est mis à tousser. Et il a vu qu'il a commencé à cracher du sang.
Aïe!
Et là, son prof de basketball, le coach, l'a vu, il a dit « wow ». Là, il a su que c'était sérieux. Il a dit, Oral, là, tu t'en vas. On se retourne chez tes parents. Donc, il l'a mis tout de suite dans la voiture. Il est retourné chez ses parents, dans sa petite maison. Mm-hmm. Et puis là, sa condition, elle s'est juste empirée. Toussait. Puis, il savait pas qu'est-ce qui se passait. Il était jeune. Puis, à un moment donné, il se souvient. Il s'est tourné vers son père. Il a dit, papa, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce qui fait que je crache du sang comme ça? Il a dit, Oral, t'as la tuberculose dans les deux poumons.
Oh là là.
C'est fini. En voulant dire, à ces années-là, c'était pour dire, tu vas mourir. Ouais. C'est ça que ça voulait dire. Et puis là, il était tout jeune, et là, la peur, il a commencé à voir noir, vraiment, et tout ça. Et juste, comment je peux dire, pour empirer la situation, il y avait des chrétiens qui venaient le voir les dimanches après-midi, qui venaient dire, mais c'est Dieu qui t'a mis ça. C'est Dieu qui t'a donné ça. Et puis là, ça, c'est devenu qu'à tellement l'énerver, tellement l'agresser, il a dit, si c'est Dieu qui m'a mis ça, je vais jamais le servir. Et là, c'était devenu vraiment, ça l'avait évidemment affecté. Et puis on le sait que c'est pas Dieu qui lui a donné la tuberculose dans les deux poumons. Mmh. Et là, sa maman, elle a dit ça, elle a vu ça et elle le regardait, elle a dit, Oral, si tu donnes ta vie au Seigneur, parce qu'il était pas né de nouveau encore. Okay. Il a dit, si tu donnes ta vie au Seigneur et si tu te tournes vraiment vers lui et tu places ta foi en lui, il va te relever de ton lit d'affliction, de cette maladie. Il va te relever. Puis elle, c'est comme venu plus fort qu'elle. Elle avait dit que c'était comme une parole vraiment de prophétie qu'elle avait eue. C'était de relèvement, tu sais. Puis c'était sorti fort en elle parce qu'il était même pas. Ses parents étaient pas encore au niveau de la guérison divine. Mm-hmm. Il prêchait le salut, il prêchait la foi, il prêchait ces choses-là, mais il avait jamais vu de malade guéri. Mais là, c'était sorti d'elle, tu sais, vraiment fortement. Puis ça l'a soudainement, ça l'a relevé. Et dans les mêmes temps, sa grande sœur, qui était déjà mariée, elle s'appelait Jewel, elle était dans sa maison, puis c'était une femme qui aimait Dieu. elle a commencé à ressentir en elle que Dieu voulait le guérir vraiment. Et puis elle non plus, elle comprenait pas trop toutes ces affaires-là de guérison. Et elle est allée voir son frère sur son lit parce qu'il arrivait même plus à bouger, à marcher. Mm-hmm. Il était complètement couché tout le temps, tout le temps. Elle l'a regardé, elle lui a dit, Oral, je le sais, Dieu veut te guérir. Et encore là, quand elle a dit ça, c'est devenu comme une, vraiment la vie qui est rentrée dans son corps. Et là, il est devenu vraiment encouragé. Il s'est passé quelque chose en lui. Et puis là, pas longtemps après, son père est arrivé. Il s'est dit, Oral, là, je vais m'agenouiller à côté de ton lit, puis je vais prier jusqu'à temps que tu te donnes au Seigneur. Mmh. Et là, son père, il était comme, il voulait vraiment pas que son fils, évidemment, meure sans Jésus. Mmh. Et il a dit, ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je vais me mettre sur mes genoux et je vais prier pour toi. Puis là, t'imagines, t'es là, t'es faible, tu peux rien faire. Là, tu sais ton père, tu peux pas l'empêcher parce que t'es tellement faible. Et son père a commencé à prier pour lui. Sauve son âme, sauve-le et restaure-le. Et puis là, les heures ont passé. Puis là, il est arrivé quelque chose qui l'a marqué pour le restant de sa vie, qu'il a dit. Il a dit, il s'est tourné vers son père à un moment donné, et son père l'a regardé, et il a dit, c'est devenu tout comme tellement glorieux, lumineux. Et il a dit, j'ai vu le visage de Jésus dans le visage de mon père. Wow. Et au moment où il a vu ça, il a dit, je me suis effondré en sanglots. Et là, j'ai vu à quel point Jésus m'aimait. Il a dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il a dit, je me suis tourné vers lui, j'ai crié à lui. Et j'ai eu soudainement l'assurance de mon salut. Et là, il était sauvé.
Wow.
Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces temps-là, il y avait un évangéliste qui venait dans leur village qui s'appelait George W. Muncy. C'est un évangéliste qui n'était pas forcément très connu. On n'entend pas parler de lui aujourd'hui. Mais il y avait un chapiteau et il allait de ville en village, de ville en ville, et il priait pour les malades. C'était quelque chose qui commençait à se faire de plus en plus, mais dans les années 30, encore là, c'était pas répandu partout comme dans les années 50 ou 60. Puis, donc là, le frère de Oral Roberts est allé aux réunions, puis il voyait soir après soir des malades être vraiment guéris. Et là, ça a vraiment commencé à booster sa foi. Il a dit, mais il se passe vraiment des choses en dessous de ce petit chapiteau-là, dans notre petite ville. Dieu guérit des personnes. Et là, il s'est comme, à un moment donné, il s'est dit, là, c'est assez, je dois apporter mon frère ici. Il n'y avait pas de voiture. Il était allé emprunter la voiture d'un de ses amis. Il avait juste 35 sous dans ses poches. Il a tout mis ce 35 sous-là pour mettre l'essence, pour aller chercher son frère qui était couché, qui était sur le point de mourir. Il est allé le chercher chez lui. Son frère est rentré. Il a dit, on s'en va à cette réunion-là. Il prie pour les malades. Les malades sont guéris. Donc là, ses parents et son frère l'ont levé. Il a fallu qu'il le porte. Il l'a emporté jusque dans l'auto. Et dans l'auto, c'est là qu'il s'est passé quelque chose de très spécifique et de très puissant. Il était dans la voiture, puis là, il entend Dieu lui parler, spécifiquement comme jamais il l'avait entendu dans son esprit. Il a dit, c'était comme une voix qui était là. Il a entendu Dieu lui dire, « Fils, je vais te guérir et tu vas apporter ma puissance de guérison à ta génération. » C'est ça qu'il a entendu. Et puis là, il a dit, ça c'est le frère Roberts qui l'a dit de sa propre bouche, il dit, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment lui? Il était dans la voiture tout seul, il s'est dit ça juste à lui-même. Il a dit, Dieu, si c'est toi, redis-moi-le encore. Et là, la même voix, fils, je vais te guérir. Il a dit, c'était plus fort, plus imposant. Et tu vas apporter ma puissance de guérison à ta génération. Et donc là, il a demandé trois fois. Il arrive au chapiteau. Ses parents le sortent, ils vont l'asseoir sur une petite chaise berçante en dessous du chapiteau parce que, comme je dis, il n'y avait pas de force, il y avait comme des oreillers tout autour de lui, puis il était là, puis il écoutait le prédicateur, il y avait des fils pour les malades qui allaient se faire imposer les mains après le message. Et puis lui était le seul, à ce que je peux savoir, qui n'était pas capable de marcher par ses propres forces. Donc, il était le dernier à faire prier pour lui à la fin de la soirée. Il était à peu près 23 heures qu'il se souvient. Il a dit, il était 23 heures et là, il m'a amené en avant. Et le prédicateur m'a regardé. Et puis, il a prié pour moi, mais il a dit, j'avais jamais entendu quelqu'un prier comme ça auparavant. Jamais, jamais. Puis là, quand il a dit, le prédicateur, il a regardé, il a dit, toi, maudite maladie, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de ses poumons, de ce jeune homme, lâche-le et va-t'en. Il a prié ça, mais avec une telle autorité. Il a dit, quand il a mis, il a prié et après, il a mis ses mains sur lui. Il a dit, quand il a mis ses mains, j'ai senti comme un éclair du haut de ma tête jusqu'à mes pieds, fouf, me traverser. Et là, il savait qu'il se passait de quoi, il commençait à trembler. Et là, il a dit, soudainement, il arrêtait pas de tousser, c'était plus fort que lui, il avait la tuberculose et il crachait du sang tout le temps. Il a dit, j'ai pris un respire. Et là, je respirais. Il n'y avait plus de toussement, il n'y avait plus rien qui se passait. Et là, il se demandait comme vraiment, waouh, est-ce que je suis vraiment, ça se passe vraiment, je suis guéri, tu sais. Et là, il est reparti chez lui. Il a reçu sa guérison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était particulier. Il avait tendance à vouloir se recoucher dans son lit parce que physiquement, il n'était pas fort encore. Il avait arrêté de tousser, il crachait plus de sang, mais il était encore faible, puis il voulait remettre son pyjama, puis il voulait se recoucher dans son lit comme il faisait quand il était malade, en fait. C'est ce qu'il avait tendance à vouloir faire. Et sa mère lui a dit, non, non, Oral, fais pas ça. T'as été guéri, et là, tu fais comme si tu es guéri. Et là, il a dit, si ça n'aurait pas été de sa maman, il aurait sûrement perdu sa guérison. Et ce serait revenu, c'est ce qu'il a dit vraiment. Il dit, ma maman, elle a joué un rôle tellement important. Et j'ai commencé à reprendre des forces et tout ça. Et en tout, il avait été malade 163 jours en 1935.
C'est long.
Et puis, il a été complètement guéri. Deux mois après, il était pleinement restauré. Il a commencé à prêcher même avec son père. Il avait un zèle incroyable à l'intérieur de lui. Et son père faisait des petites réunions comme de réveil qu'il appelait à l'époque dans des églises. Il accompagnait son papa et son papa le laissait prêcher. Puis le frère Robert s'est dit, c'est comme ça, j'ai commencé à prêcher. Et justement, pendant qu'il prêchait, son père recevait des offrandes puis il donnait rien à Robert, au frère Robert. Il lui donnait pas rien à son fils. Puis c'est venu qu'à le décourager, justement. Puis à un moment donné, il a dit, ben là, moi, si je peux pas vivre de ça, ben je vais m'en aller de la maison, je m'en vais loin d'ici, puis je vais essayer de faire mes propres choses par moi-même. Puis là, il est sorti de sa maison, puis comme nous, on dit faire du pouce ici, mais c'est du stop, je pense que vous dites. Il est sorti pour faire du stop, puis il a dit, la première voiture qui a arrêté pour me prendre, ben c'était son père. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben papa, là, il a commencé à lui dire comment il était découragé, tout ça, et son père, il a dit, ben écoute, il dit, mon fils, je veux que tu serves le Seigneur et puis maintenant, on va faire ça à deux, les deux ensemble, on va le servir comme on doit le faire et tout ça. Et puis, il a continué à prêcher, il a vraiment été encouragé, il a grandi comme ça. Et puis là, je vais avancer, on avance à peu près de 12 ans. Il s'est marié avec sa femme Evelyn. On peut montrer une photo qu'on a de les deux ensemble. Ils se sont mariés dans ces 12 ans-là qu'on vient d'avancer. Et puis là, il était pasteur dans des petites églises un peu partout au travers des États-Unis. Et puis, il s'est rappelé, il s'est souvenu de cette parole-là. « Fils, je vais te guérir et tu vas porter ma puissance de guérison à ta génération. » Il s'est souvenu de cette parole-là de Dieu et ça lui a parlé énormément. Et puis là, il s'est dit, « Ben là, il faut qu'il commence à se passer des choses. » Parce qu'il était pasteur des petites églises, mais il voyait rien. Puis il dit, « Je voyais des prêcheurs pentecôtistes prêcher du baptême du Saint-Esprit, mais personne n'était baptisé du Saint-Esprit. Je voyais des gens parler des guérisons et personne n'était guéri. Puis moi, je voulais pas vivre ça. » Je voulais qu'il se passe quelque chose. Donc, à un moment donné, il a dit à sa femme, « Chérie, arrête de faire de la nourriture. Moi, je vais jeûner, je vais prier. » Et donc, il est allé, il a jeûné, il a prié. Je vais très rapidement parce que ça va par rapport à l'émission d'aujourd'hui, l'équipement que Dieu nous donne. Il se souvient d'un soir en particulier dans son bureau de pasteur. Il s'est allongé au sol. Il a dit, « Dieu, si vraiment je suis pour faire quelque chose, il faut qu'il se passe de quoi. » Et puis là, Dieu lui a parlé précisément sur sa vie. Ça l'a tellement encouragé. Il s'est levé, il est allé en voiture. Il a vu l'auditorium dans sa petite ville où il habitait, à Enid, à Oklahoma. Il a vu l'auditorium qui pouvait asseoir plus de 1000 personnes. Et lui, son église locale, auquel il était pasteur, pouvait asseoir à peu près 200-250 personnes. Donc là, il s'est dit, « Dieu, tu me demandes de faire ça pour ma génération. Je vais louer l'auditorium. Mais si c'est vraiment toi qui m'appelles à faire ça, il a dit, je veux vraiment, vraiment pas avoir à payer pour cet auditorium-là et je veux que les personnes soient guéries. » Évidemment, parce que tu annonces des réunions de guérison, je veux que les gens soient guéris. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? La première réunion est arrivée. L'auditorium était plus que plein. Pour lui, c'était un miracle. Déjà là, attirer plus de 1200 personnes, c'était énorme pour lui. Il a prié pour les premiers malades. Les gens s'étaient avancés pour la guérison comme il n'avait jamais vu. Il a commencé à prier pour eux et là, il a commencé à se passer des choses extraordinaires. Les malades étaient guéris vraiment. Et puis, il se souvient, un soir, il allait prier pour un petit garçon. Et avant de prier pour lui, Dieu lui a dit, « Oral, tu as été fidèle jusqu'à présent. Et là, maintenant, je veux que tu saches quand que tu vas prier pour un malade et qu'il va y avoir des mauvais esprits qui doivent sortir et tout ça, tu vas sentir dans ta main quelque chose que je vais mettre dans ta main. Si tu veux, quand tu vas prier pour les gens, tu vas voir, il va se passer quelque chose de puissant. » Il a senti dans son bras descendre la chaleur comme du Saint-Esprit, si on veut que c'était là.
Wow.
Et puis tu dis, les gens, ils écoutent à la maison, mais c'est quoi ces trucs-là? Le fruit est là pour en témoigner.
Oui.
Parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont été guéries. Et quand vous écoutez Héros de la foi, vous remarquerez, il priait toujours avec la main droite. Tout le temps. Il priait avec la main droite parce qu'il savait, Dieu lui avait parlé spécifiquement. On parle d'équipement surnaturel aujourd'hui. C'est ça qu'on parle.
C'est tout un équipement.
Puis là, il avait dit, tu vas pouvoir chasser les démons, vraiment. guérir les malades, quand tu vas sentir ça, et un soir, justement, il se rappelle, il sentait pas la présence de Dieu sur lui tangiblement, et ça l'énervait, parce qu'il voulait cet équipement-là, il voulait le ressentir. Mm-hmm. Et puis, il est sorti, bon, et ça s'est manifesté, mais tout ça pour dire que, dans sa vie, il y a eu une enfance difficile, mais Dieu l'avait appelé, et Dieu l'a équipé, et mm-hmm. Dieu a été fidèle à sa parole, il lui avait dit, tu vas porter ton message, le message de ma puissance de guérison à ta génération, mm-hmm. et si vous connaissez pas l'histoire de l'Église, dans les années 1900, je veux dire, il a impacté le monde entier. Oral Roberts, c'est un homme de Dieu incroyable, énorme. Il y a eu l'université Oral Roberts, justement, aux États-Unis, qui est là. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il a fait tellement de choses grandes et puissantes avec l'aide de Dieu. C'est vraiment un héros de la foi. Puis, il a été équipé de la part de Dieu pour faire ce qu'il devait faire. Dieu l'avait appelé et Dieu l'a vraiment équipé surnaturellement. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, je voulais parler de lui. Quand on s'était parlé mm-hmm. avant l'émission, j'avais dit, lui, il a reçu un équipement surnaturel pour accomplir ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mm-hmm. Puis, il faut être encouragé à la maison. Si Dieu vous a appelé, soyez fidèle parce que Dieu lui avait dit, Oral, t'as été fidèle. Et là, maintenant, il montait à une autre dimension mm-hmm. de guérison, mm-hmm. si on veut. Il se souvient des réunions, il pouvait prier toute la nuit. Des centaines et des milliers de personnes, des soirées étaient guéries. C'était surnaturel, quelque chose vraiment de glorieux. Et puis, on va le revoir de nos jours. Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Hey, Frank, merci. C'était passionnant. J'ai l'impression d'être devant un film.
Oui.
J'ai tout vu dans ma tête et tout. C'était glorieux. Génial. Ouais. Et j'ai vraiment aimé cet appel qu'il reçoit, il y a 12 ans qui s'écoulent.
Ouais. Mmh.
C'est long, 12 ans. C'est très, très long. Tu peux te dire, hein, mais Seigneur, est-ce que tu as vraiment parlé? Est-ce que j'ai vraiment bien entendu ta voix? Mmh. Je pense que c'était bien qu'il ait demandé 3 fois la confirmation quand même, parce que 12 ans, c'est long.
Ouais.
Mais quand il a décidé que c'était le moment, là, c'était maintenant, quand il s'est enfermé, qu'il a fait cette prière dans son bureau, je crois que vraiment, là, ça a marqué un tournant pour lui parce qu'il a décidé de se positionner. Il a rien reçu de plus ou de moins.
C'est ça qui change tout,
c'est ça. Exactement. Il a décidé, là, de faire ce pas de foi. Ouais. Louer cet auditorium de 1000 places, c'est un pas de foi gigantesque quand même. Ouais. Et puis, il a mis un peu Dieu au défi, mais parce qu'il avait reçu cet appel.
Ouais.
Et il a cru que Dieu était capable de faire ce qu'il lui avait dit, en fait, et d'accomplir sa parole au travers de lui. Hein.
Si on pense, par contre, s'il avait arrêté avant les 12 ans, parce que des fois, les gens ont reçu l'appel de Dieu, mais là... dans le processus de la formation aussi, il a été prouvé, tout ça.
Oui,
mais des fois, c'est là où on abandonne avant. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a plusieurs, Oral Roberts, qui sont là aujourd'hui, qui sont peut-être dans un processus de formation. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer jusqu'à temps qu'on arrive vraiment dans notre appel.
Ouais. Mm-hmm.
Parce que si on a reçu une vision de Dieu, si on n'est pas encore arrivé, il faut poursuivre jusqu'à temps qu'on la vive.
Amen. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Mm-hmm. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est Dieu qui parle, c'est sa parole.
C'est
ça va forcément produire un jour ou l'autre du fruit. Et toi, tu disais que ta grand-mère,
ma grand-mère
a été guérie au travers du ministère de Oral Roberts.
C'était une femme qui était dépressive à l'époque. Et puis, elle avait entendu parler d'Oral Roberts. Elle le voyait à la télévision à l'époque. Et puis, mon grand-père, qui était pas il était pas très charismatique.
Mm-hmm.
Mais, donc, il était pas vraiment intéressé, lui. Mais Grandma Spinks voyait cet homme qui prêchait le Jésus qui guérissait. Et puis, elle souffrait vraiment d'une dépression profonde.
Mm.
Donc, elle disait à son mari, elle disait, si tu m'amènes là-bas, là, à Ohio, je crois, je vais être guérie. Je sais que je vais être guérie. Donc, mon grand-père Spinks se dit, parfait,
on
y va. Et puis, elle a reçu la prière d'Oral Roberts, elle a été instantanément guérie.
Alléluia.
Et des fois, pour les gens, des fois, on se dit, bien, la dépression, est-ce que c'est une vraie maladie? Mais en fait, oui, vraiment, c'est une maladie qui peut ruiner une vie. Des fois, on peut même vouloir s'enlever la vie.
Mm.
Donc, ma grand-mère a été instantanément guérie et puis elle n'a jamais été la même femme après. Mm. Elle a été vraiment remplie de joie, puis elle était connue, Grandma Spinks, comme étant une femme joyeuse et puis même une vendeuse de produits de beauté. Et puis, elle avait beaucoup d'amis, mais sa vie a été changée à partir d'une prière d'Oral Roberts.
C'est fou, c'est vraiment puissant. Et moi, je veux vraiment vous encourager à la maison à aller écouter les prédications d'Oral Roberts sur l'émission Héros de la foi. Sincèrement, allez les écouter parce qu'on a reçu quand même beaucoup de témoignages, sans compter tous ceux qui n'ont pas témoigné, qui ont reçu des guérisons en regardant ces émissions. Et je me disais, Dieu lui a dit qu'il allait amener la guérison dans sa génération, mais ça va même au-delà finalement, parce qu'on est encore au bénéfice, en fait, de ce que Dieu avait mis en lui, de cet équipement surnaturel que Dieu avait mis en lui. Donc, allez écouter sur le site enseignemoi.com dans le replay pour pouvoir regarder ces émissions de Héros de la foi. Merci Frank pour cette super rubrique. Merci à vous tous pour cette émission. On se retrouve demain. Demain, nous allons parler de la sanctification. C'est cool. Une émission spéciale pour les jeunes. Donc, parents, si vous avez des jeunes sous la main, ce sera l'opportunité pour eux de les emmener devant l'écran de Bonjour chez vous. Et nous aurons donc la rubrique Pasteur, j'ai une question et culture et médias. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.